Quand j'ai commencé à réfléchir à cet épisode, j'étais au Cambodge. On était au mois de décembre, j'étais sur une plage, au soleil. Il devait faire 32 degrés. Après ce confinement et cette crise du Covid, tout ça, ça me paraît tellement loin. Et alors, je ne veux pas retourner le couteau dans la plaie, mais vous vous souvenez comme c'est agréable d'être bercé par les vagues ?
France Info.
Le nombre et l'ampleur des incendies qui touchent la province de Sydney n'avaient jamais été atteints.
Tant qu'à parler de souvenirs, je ne sais pas aussi si vous vous souvenez, mais cet hiver, l'Australie, elle était en train de brûler. Et moi, pour arriver sur cette île, j'avais pris 3 avions différents. Je m'appelle Grégory Pouy, j'ai 43 ans, j'essaie de comprendre comment la société évolue. C'est aussi pour ça que j'ai créé mon podcast, Volant. J'ai envie de partager, mais aussi j'ai besoin d'aller plus loin. Je suis de bonne volonté, j'ai envie d'agir, et d'ailleurs, j'agis. Je me déplace en vélo, je ne mange quasiment plus de viande, je trie mes déchets, mais j'ai pas vraiment envie de tout sacrifier. Et pour aller plus loin, j'ai donc décidé d'écrire un livre, pour essayer de comprendre comment on allait s'en sortir. C'est quoi la solution? Vers quoi on se dirige? Alors évidemment, j'avais pas conscience, au moment où j'ai écrit le livre l'année dernière, que ça allait tellement résonner avec l'actualité du moment, et désormais, ce monde d'après. Mais voilà, on y est. J'ai appelé ce livre « Insoutenable paradis, écologie et mode de vie, comment réagir sans tout sacrifier ». C'est un livre positif pour les personnes comme moi, qui sont conscientes, qui font des efforts au quotidien, mais qui ne sont pas des militants écologiques, et qui aimeraient bien savoir comment on va s'en sortir et comment gérer ses propres contradictions au quotidien.
Enfin, de toute manière, moi je pense que c'est trop tard, tu vois, tout va s'effondrer, et puis on a totalement détruit les écosystèmes.
Ben voilà, justement. J'ai la sensation d'entendre que des visions binaires. Et moi, je m'y retrouve pas du tout. D'un côté, on me parle de solutionnisme technologie, avec la technologie et sa main invisible qui va nous sauver, et de l'autre, ben, typiquement que c'est déjà trop tard. Et moi, j'ai besoin de prendre de la hauteur, de sortir d'une vision purement technique, mais de parler de nous, des humains, des hommes, des femmes, d'apporter une vision humaniste et apaisée. Humaine parce que le pire dans cette société d'hyperconsommation que l'on a créée, c'est qu'elle laisse déjà 10 millions de personnes dans la pauvreté en France et des milliards de personnes dans des conditions terribles dans le monde entier, mais que le pire dans tout ça, c'est que ça nous rend même pas heureux. Alors, on fait du développement personnel, on fait des burn-out, on prend des tonnes d'anxiolytiques. Alors bien sûr, je concile très, mais les statistiques sont là quand même. Bon alors, on fait quoi concrètement? À ce stade, c'est facile de se dire, tu sais, moi, là-dedans, ça me dépasse totalement. Et bien sûr, comme tout ça va très vite, on aimerait bien que ça soit aussi simple qu'une notification WhatsApp. Mais la réalité, elle est complexe. Donc pour ce livre, je suis allé voir les 3 éléments qui font société. Pour comprendre, tout simplement, les politiques, comme François Hollande.
C'est vrai.
Des patrons d'entreprise, comme Pascal Desmurger, le patron de la Maïf.
D'abord, c'est une conviction, c'est que l'entreprise n'aura plus le choix et devra nécessairement demain s'engager et essayer d'avoir un impact positif.
Et plein de personnes de la société civile qui tentent d'agir, comme Elisabeth Laville, la fondatrice d'Utopie.
Si on consomme des produits qui sont supposés mieux-disants pour l'environnement, typiquement biologiques, etc., dans le mode de production, mais qu'on les transporte, et notamment par avion quand c'est des produits frais, depuis l'autre bout du monde. Et je parle de produits frais, ça peut être aussi bien des fruits et légumes que des fleurs, hein, parce que les fleurs sont beaucoup importées par avion. Ça n'a pas de sens. En tout cas, du point de vue de l'environnement, qui est l'intention initiale, ça n'a pas de sens. Même si, en fait, on voit que les gens consomment plus bio pour la santé, en réalité, que pour l'environnement. Mais en tout cas, cette question d'autonomie alimentaire, elle a plusieurs impacts. Elle a donc les impacts environnementaux, le fait que, d'autonomie alimentaire ou d'autonomie tout court d'ailleurs, parce qu'on parlera peut-être aussi des productions industrielles. Donc il y a l'aspect environnemental, l'impact environnemental, y compris l'impact environnemental local. Donc il y a les émissions de CO2, mais le trafic sur les routes, les accidents sur les routes, et ce qui est le cas de manière croissante, les territoires se transforment en plateformes logistiques où à longueur de journée, des camions qui exportent certaines denrées croisent des camions qui importent ces mêmes denrées parfois. Ça génère aussi toute une série de nuisances locales, le bruit, la pollution, les émissions de diverses particules toxiques, etc., etc.
En tout, ce livre s'appuie sur une centaine d'entretiens avec des chercheurs, des psychologues, des sociologues, des anthropologues, pour comprendre pourquoi ça ne bouge pas vraiment et vers où nous pouvons aller. Ces 3 acteurs, politique, entreprise, société civile, sont interconnectés. Ils bougent ensemble. Ou plutôt, en ce moment, on pourrait dire qu'ils restent relativement immobiles ensemble. Et justement, cet immobilisme, il m'a intéressé. Parce que, même si on se désole pour l'Australie ou l'Amazonie, globalement, on continue à mener notre vie moderne avec toute la praticité qui est liée. Pour comprendre ce comportement, j'ai demandé à Albert Moukaïber, qui est un neuroscientifique franco-libanais, de m'expliquer pourquoi.
Effectivement, pour le climat, par exemple, c'est un sujet très complexe. Mm-hmm. C'est pas par hasard que ça fait 30 ans qu'on essaye de convaincre tout le monde que c'est déjà, on a eu beaucoup de mal à convaincre tout le monde que c'est vrai. Mm-hmm. Maintenant, la réponse, l'éducation s'est déplacée de c'est vrai à c'est causé par l'homme, parce qu'il y a maintenant beaucoup de gens qui sont pas climato-sceptiques, qui disent ouais, il y a un réchauffement climatique, mais c'est pas l'homme. Mmh. Et donc il y a un énorme travail de pédagogie quelque part, sauf que si on suit un peu, si on fait schématiquement comment est-ce qu'on agit dans une situation, imaginez que vous êtes exposé à une information, elle devient une connaissance. Quand vous interagissez avec une connaissance pendant un moment, elle devient une croyance, comme la croyance par exemple, on est foutu à cause du climat. Une fois qu'une croyance est quelque part centrale pour vous, ça peut devenir une intention, donc je veux faire quelque chose. Et une fois qu'on a l'intention, on peut passer à l'action. Et donc, je fais quelque chose et par exemple, j'arrête de prendre l'avion. Entre cette courbe de connaissance, croyance, croyance, intention, intention, action, il y a plusieurs pièges qui peuvent venir se loger. Par exemple, dans le cas des climato-sceptiques, ils peuvent être exposés à de fausses connaissances ou être exposés à de bonnes connaissances qu'ils intègrent de manière fausse, qui les poussent à avoir une fausse croyance. Entre l'intention et l'action, par exemple, il y a ce qu'on appelle la intention-action gap, le trou intention-action, où je peux dire je veux faire quelque chose, mais je passe jamais à l'action. Par exemple, je peux dire je vais faire plus de sport, prendre mon abonnement à la salle de sport et ne pas y aller, ou je veux faire un régime et ne pas le faire. La intention-action gap, par exemple, un mot qu'on utilise de la vie courante qui décrit un type d'intention-action gap, c'est la procrastination. Mm-hmm. Du coup, face au réchauffement climatique, il y a des obstacles quasiment à chaque étape de ce processus. Au niveau des connaissances complexes, beaucoup de gens ne savent pas la différence entre climat et météo, par exemple. Vous dites le réchauffement climatique, mais il fait froid. C'est ce que Trump a dit une fois, donc oui, c'est quand même le président de la République. Entre croyance et intention, il y a plusieurs freins, parce que, par exemple, je peux me dire, OK, on est foutu, mais le climat, c'est trop grand. Moi, je peux rien faire. C'est pas comme si moi, avec mon petit verre en plastique, je vais faire une différence. Donc, ça devient pas une intention. Et entre intention et action, on peut avoir aussi un grand trou, parce que, par exemple, je dis, je veux moins manger de viande, parce que je sais que la viande, c'est pas bien pour le climat. Mais au boulot où je suis, à la cantine, il n'y a pas de plat végétarien. Du coup, je ne peux pas passer à l'action parce que mon intention est très difficile à mettre en place. Je ne vais pas partir de mon bureau à chaque fois pour aller à une cantine ou préparer le soir mes plats parce que je n'ai pas le temps, parce que j'ai des enfants. Donc, il y a une sorte de réalisme. Et donc, on s'intéresse un peu à des différents pièges que notre cerveau peut mettre en place. Mais aussi, il ne faut pas oublier ça, aussi la société, le système dans lequel on vit, on va dire, ne promouvoit pas énormément... l'action encore, parce que c'est un système qui est quand même axé autour de la consommation, de la production, etc.
Et oui, il a raison Albert. Le système, il est basé sur la consommation, la croissance, la performance. Et finalement, c'est à cause des entreprises, non? Et comme le bâtiment, c'est l'un des secteurs qui pollue le plus, évidemment, je suis allé voir le patron du développement durable de Bouygues, Fabrice Bonifay. Et lui, il me parle de la contribution des entreprises.
On s'est dit, comment faire en sorte que l'entreprise prenne sa part. Et pour qu'elle prenne sa part en restant crédible, il faut avoir un certain nombre de... prendre en compte un certain nombre de conditions. Alors, première condition, si on veut être crédible, c'est considérer en fait que la donnée d'entrée numéro un de la stratégie, c'est l'effet scientifique. Alors ça, c'est nouveau quand même. C'est-à-dire, l'entreprise dit, je vais prendre en compte ce que dit la science... et je vais l'intégrer comme premier article de ma stratégie. Alors la science a dit quoi ? La science a dit que si on veut préserver le climat, déjà, il faut pas émettre plus de X tonnes de CO2 dans l'atmosphère si on veut rester en dessous de 2 degrés. Donc si on n'est pas neutre en carbone, on déroge déjà à ce premier principe. Donc ça va pas. La science dit aussi que les ressources sont pas infinies. Mais ça, c'est même pas de la science, c'est de l'arithmétique. Donc, si les ressources sont pas infinies, ça veut dire que je dois utiliser des ressources pour faire mon business, mais tout en les utilisant, je dois travailler à leur renouvellement. C'est-à-dire que je dois intégrer dans ma comptabilité la dépréciation de mes ressources, la dépréciation des ressources que j'utilise, pour pouvoir continuer d'en avoir au fil du temps. Et donc ça, cette nouvelle façon de compter la valeur, peu d'entreprises font ça aujourd'hui. Donc c'est d'intégrer en fait le capital naturel. Le capital naturel, c'est la base de toutes les entreprises. Parce que les entreprises, finalement, pour faire du business, transforment des matières premières avec de l'énergie, de l'intelligence humaine, des machines, des moteurs. Mais s'il n'y a plus de matières premières ou s'il y en a moins, ben, il n'y a plus de business. Donc pour préserver ces matières premières, il faut les intégrer au bilan. Aujourd'hui, c'est pas le cas, et comme c'est pas le cas, on considère les matières premières comme des actifs, mais comme on ne les gère pas au passif du bilan, ben, on ne met aucun investissement, aucune provision financière pour les renouveler. Mmh. Et puis voilà, donc on arrive dans l'état où on est aujourd'hui, où on pompe les ressources partout dans le monde, ce qui crée des désordres environnementaux colossaux. Mmh. Et on commence à voir, et c'est un paradoxe, mais on commence à voir des pénuries énormes. Et ça nous empêche pas de continuer d'accélérer en fait dans ce mécanisme-là. Donc l'entreprise contributive, c'est déjà dire voilà, la science nous dit un certain nombre de choses pour la préservation des écosystèmes, pour le renouvellement des ressources renouvelables et non renouvelables. Alors quand c'est pas renouvelable, il faut faire l'économie circulaire. Quand c'est renouvelable, il faut laisser le temps à la nature de le renouveler et pas aller plus vite que ce que la nature peut faire. Et ça, c'est la base de l'entreprise contributive. Alors, on est très, 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 très loin de ça aujourd'hui, dans 99% des entreprises. Mais une entreprise contributive, ça commence par ça. Et puis, une fois qu'elle a compris ça, l'entreprise, en s'appuyant donc sur des experts, des scientifiques qui leur disent les choses. Mmh, hein. Mmh. Donc, ça veut dire que dans les conseils d'administration des entreprises de demain, on va peut-être voir arriver des climatologues, des anthropologues, des spécialistes de la nature. Mmh. Parce que c'est eux qui vont être la voie, en fait, de la préservation des matières premières qui sont nécessaires pour le fonctionnement d'entreprise.
Les personnes dans les entreprises comme Fabrice sont donc conscientes et ils se bougent pour faire avancer les choses. Finalement, son discours, il n'est même pas si éloigné des militants qu'on pourrait résumer par...
Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice.
Parce que oui, Maurice, sur les 70 dernières années, clairement, on est allé beaucoup trop loin. À ce stade, vous devez penser à la régulation politique. C'est à eux de faire bouger les choses, non? Alors, moi je me suis dit ça aussi et je suis allé donc voir des personnalités politiques, dont Gaspard Ganzer, qui a dirigé la communication de François Hollande et qui s'est présenté à la mairie de Paris en 2020.
Ce qui manque à la classe politique actuelle, c'est du désintéressement. C'est-à-dire la capacité à prendre des décisions en se disant que peut-être qu'ils en pâtiront à court terme en termes de popularité, voire à long terme. Et que c'est peut-être qu'à très long terme, c'est-à-dire dans un siècle ou un siècle et demi, qu'on finira par reconnaître qu'ils ont eu raison de le faire. Si on fait une métaphore avec le secteur artistique, les hommes politiques ont envie d'être des artistes adulés de leur vivant. Pas reconnus pour leur postérité, parce qu'ils seront plus capables de le constater. Donc c'est une première explication. Puis il y en a une deuxième que j'ai pas évoquée tout à l'heure quand même. C'est pas pour les excuser, mais c'est pour aider à les comprendre. La classe politique qui est aujourd'hui au pouvoir, et je mets en France, et je mets Macron dans cet environnement-là, parce que même s'il est plus jeune que les Hollande, Sarkozy, Juppé, etc., il est quand même très proche d'eux idéologiquement. C'est quand même des gens qui se sont construits politiquement et idéologiquement sur une matrice assez simple dans laquelle il y avait d'un côté des progressistes libéraux ou pour simplifier on va dire et de l'autre côté des socialistes ou marxistes ou en tout cas le point commun entre ces deux gens c'est que le clivage se faisait sur les questions économiques et la question de la répartition des richesses, pas du tout sur la question de la préservation de la planète, etc. Et ces gens en fait considèrent vraiment que le destin de l'humanité c'est quand même l'accumulation et la répartition des richesses pour nourrir une population toujours plus importante, etc. Et pour eux, le clivage qui se situe autour de la préservation de l'espèce humaine en général, à long terme, et de la planète, c'est presque de la science-fiction. Soit qu'ils n'y croient pas, soit qu'ils ne savent pas se déployer par rapport à cela, parce qu'on leur a tellement énoncé tout au long de leur vie que le déterminant, c'était la croissance, les revenus, le pouvoir d'achat, la lutte contre le chômage, qu'ils ont du mal à s'en sortir. Quoi.
Bon, clairement, la politique seule ne fonctionne pas non plus, d'autant moins dans un monde globalisé. Vous l'aurez compris, enfin j'espère, ce livre c'est une enquête réaliste, structurée, documentée, qui apporte une vision d'ensemble et accessible de problématiques qui ne le sont pas. J'ai appelé mon livre « Insoutenable paradis » parce que ce paradis que l'on s'est créé, il n'est pas soutenable, ni pour nous, ni pour notre maison, la planète, et encore moins pour les autres espèces vivantes. En réalité, la solution que j'y aborde, c'est qu'il faut réinventer les imaginaires. J'en ai d'ailleurs discuté avec l'artiste Abdelmalik.
Ça influe et comment le fait d'être français aujourd'hui, par exemple. Et je pense que ma démarche aussi, c'est de me dire comment je vais comment rendre sexy l'intelligence, d'une certaine manière. Parce qu'en fait, la clé, elle est là. La clé, c'est que si on fait, comment dire, on fait que la promo d'une pensée binaire où tu veux être heureux, il faut avoir, ou on met l'avoir toujours, comment dire, on vit dans une société où l'avoir va compter plus que l'être. Enfin, toutes ces choses-là, ça fait que fondamentalement, on a la société qu'on mérite, on a le monde qu'on mérite. Et que la réalité, c'est qu'il faut revenir au commencement. Et revenir au commencement, c'est là où on se trouve, nous, autres artistes, puisqu'on travaille directement sur les imaginaires. Précisément, t'as dit tout à l'heure que si on fait la promotion de telles valeurs, finalement, au cinéma, dans la musique, etc., sur Instagram, les réseaux sociaux, etc., on peut pas forcément, mais parce que on fait la promo d'une certaine culture. Donc, il faut changer, si tu veux. Si on veut pas une société violente, eh ben, il faut pas faire la culture de la violence. Mmh. Et j'ai envie de dire, il faut faire la culture de la non-violence. Mmh. Si on veut un autre regard lié à la femme, etc., etc., je pourrais, et c'est ça que je veux dire. Et j'ai le sentiment que nous autres artistes, on est au cœur de ce processus, encore une fois, parce que directement on travaille sur les imaginaires, donc forcément on permet le changement des êtres d'une manière concrète et réelle, et surtout profonde.
Redéfinir ce qu'est le bonheur, le succès, la croissance, la performance. Et pour ce faire, je crois qu'il faut changer de spiritualité société, c'est-à-dire embrasser le développement du féminin en chacun, s'intéresser aux autres manières de faire société, aller plus vers une société liquide. Et pour moi, c'est en allant vers cette nouvelle spiritualité de société, en faisant ce pas de côté, que l'on devient écologique au mieux, car on n'a même plus besoin de se forcer. Ça sort le 10 juin chez Duno, et vous pouvez aller l'acheter directement chez votre libraire. Alors évidemment, c'est difficile de lancer un livre dans cette période, donc j'espère que le sujet vous plaira, que ça va vous intéresser, et que ça va en partie vous apporter les réponses que vous recherchez. Cet épisode, comme tous les épisodes de Vlan, ont été réalisés par le studio de création de podcast Plink, en particulier par Pierre-Henri Samion et Antoine Bertin.